Radio Libertaire 89.4.
Mercredi, 16h. Radio Libertaire, le Ferry Club.
La Radio Libertaire.
Faire de décor, changer de lit, changer de corps, à quoi bon? Puisque c'est encore moi qui moi-même me trahis, moi qui me traîne et m'éparpille, et mon ombre se déshabille dans les bras semblables des filles où j'ai cru trouver un pays. Cœur léger, cœur changeant, cœur lourd, le temps de rêver est bien court. Que faut-il faire de mes jours? Que faut-il faire de mes nuits? Je n'avais amour ni demeure, nulle part où je vive ou meurs. Je passais comme la rumeur, je m'endormais comme le bruit.
Est-ce ainsi que les hommes vivent?
C'était un temps déraisonnable. On avait mis les morts à table. On faisait des châteaux de sable. On prenait les loups pour des chiens. Tout changeait de pôle et d'épaule. La pièce était-elle ou non drôle? Moi, si j'y tenais mal mon rôle, c'était de n'y comprendre rien. Dans le quartier Hohenzollern, entre la Sarre et les casernes, comme les fleurs de la luzerne, fleurissait Saint de Lola. Elle avait un cœur d'hirondelle sur le canapé du bordel. Je venais m'allonger près d'elle dans les hoquets du pianola.
Est-ce ainsi que les hommes vivent?
Le ciel était gris de nuages. Il y volait des oies sauvages qui criaient la mort au passage, au-dessus des maisons, des quais. Je les voyais par la fenêtre. Leur chant triste entrait dans mon être et je croyais y reconnaître du Renner Maria Rilke. Elle était brune, blanche, ses cheveux tombés sur ses hanches, et la semaine et le dimanche, elle offrait à tous ses bras nus. Elle avait des yeux de faïence et travaillait avec vaillance pour un artilleur de Mayence qui n'en est jamais revenu.
Est-ce ainsi que les hommes?
Il est d'autres soldats en ville, et la nuit monte les civils. Remets du rimmel à tes cils, Lola, qui t'en ira bientôt. Encore un verre de liqueur. Ce fut en avril, à 5 heures, au petit jour,
que dans ton cœur, un dragon plongea son couteau.
Est-ce ainsi que les hommes vivent et leur baiser au loin le suit
comme des soleils
Bonjour Rebecca Manzoni.
Bonjour Nicolas, bonjour à toutes et tous.
Le deuxième volume de l'intégrale Léo Ferré vient d'être édité et ce matin pour Tubenco, vous avez choisi Rebecca la chanson « Est-ce ainsi que les hommes vivent ?»
Un texte de Louis Aragon que Ferré met en musique pour faire entrer la poésie dans les jukebox et à la radio.
Tout est affaire de décor, changer de lit, changer de corps. À quoi bon puisque c'est encore moi qui moi-même me trahis, moi qui me traîne et m'éparpille. Et mon ombre se déshabille dans les bras semblables des filles où j'ai cru trouver un pays.
J'ai entendu cette chanson une centaine de fois et n'y ai rien compris les 80 premières. Mais je retenais ces deux vers. Je passais comme la rumeur, je m'endormais comme le bruit, parce que derrière, le piano qui dévalait disait en notes exactement la même chose. Et cette glissade nous mène au refrain.
Est-ce ainsi que les hommes vivent et leurs baisers au loin les suivre.
À l'origine, le poème d'Aragon s'intitule Birchtube, magie allemande, et il est extrait du recueil Le roman inachevé.
Dans le texte d'Aragon, Ferré coupe des vers, les déplace, en répète pour faire un refrain, et l'on demande à Louis Aragon.
Tout ça, vous acceptez, vous ? Ça vous aime pas ?
Mais non, pourquoi est-ce que ça me gênerait ? Cela m'apprend énormément sur mes poèmes, et il est certain que dans des poèmes plus récents de moi, peut-être pourrait-on trouver une influence en retour de la chanson telle que Léo Ferré la comprend.
Je me permets d'ajouter que sans Léo Ferré, Louis Aragon n'aurait peut-être pas connu la même postérité. Avec le disque Léo Ferré chante Aragon, c'est la naissance de deux patrimoines. Ferré aussi entre dans la légende, notamment avec un récital qu'il donne à l'Alhambra et qu'il consacre comme interprète.
Il est d'autres soldats en ville, et la nuit monte les civils. Remets du rimmel à tes cils, Lola, qui t'en ira bientôt.
Sa voix encore comme des gros yeux, la fureur de son murmure, trop d'emphase, il en fait des caisses, me disais-je alors en mon fort intérieur, car je savais bien qu'en énonçant cette phrase à voix haute, j'étais bonne pour me passer la bouche au gel hydroalcoolique. Mais c'est à la musique de la version originale que j'aime revenir. Ferré l'a composée, Jean-Michel Defaille en est l'arrangeur, et il y a cette valse pour le refrain. Et d'un coup, le chaloupé d'un tcha-tcha-tcha pour les couplets. Comment Defaille et Ferré ont-ils eu l'idée d'une musique afro-cubaine pour le récit d'un soldat en Allemagne et ses silences répétés dans la partition. Et la harpe et la guitare délicate à la fin. Pardonnez cette parenthèse toute personnelle, mais j'aimerais dédier ce Tubenco à mon père qui m'a tanné pendant des années pour que je fasse un truc avec cette chanson. Je répondais d'un haussement d'épaule en marmonnant que c'était un truc de vieux croulant, l'arrogance de la jeunesse. Et puis...
Est-ce ainsi que les hommes vivent et leurs baisers au loin les suivent comme des soleils révolus.
Souriez, c'est vendredi.
Et on a aussi les larmes aux yeux. Merci Rebecca et à demain.
Tout est affaire de décor, changer de lit, changer de corps. À quoi bon, puisque c'est encore moi qui moi-même me trahis, moi qui me traîne et m'éparpille, et mon ombre se déshabille dans les bras semblables des filles où j'ai cru trouver un pays. Cœur léger, cœur changeant, cœur lourd, le temps de rêver est bien court. Que faut-il faire de mes jours? Que faut-il faire de mes nuits? Je n'avais amour ni demeure, nulle part où je vis ou meurs. Je passais comme la rumeur, je m'endormais comme le bruit.
Est-ce ainsi que les hommes vivent? Et leurs baisers au loin les suivent?
C'était un temps déraisonnable, on avait mis les morts à table, on faisait des châteaux de sable, on prenait les loups pour des chiens, tout changeait de pôle et d'épaule. La pièce était-elle ou non drôle? Moi, si j'y tenais mal mon rôle, c'était de n'y comprendre rien. Dans le quartier Hohenzollern, entre la Sarre et les casernes, comme les fleurs de la luzerne, fleurissaient les seins de Lola. Elle avait un cœur d'hirondelle sur le canapé du bordel. Je venais m'allonger près d'elle dans les hoquets du piano là. Est-ce ainsi que les hommes vivent? Et leurs baisers au loin les suivent?
Le ciel était gris de nuages. Il y volait des oies sauvages qui criaient la mort au passage au-dessus des maisons des quais. Je les voyais par la fenêtre, leur chant triste entrait dans mon être et je croyais y reconnaître du Rainer Maria Rilke. Elle était brune et pourtant blanche, ses cheveux tombaient sur ses hanches, et la semaine et le dimanche, elle ouvrait à tous ses bras nus. Elle avait des yeux de faïence et travaillait avec vaillance pour un artilleur de Mayence qui n'en est jamais revenu.
Est-ce ainsi que les hommes vivent? Et leurs baisers au loin les suivent?
Il est d'autres soldats en ville, et la nuit montent les civils. Remets du rimmel à tes cils, Lola, qui t'en ira bientôt. Encore un verre de liqueur. Ce fut en avril à 5 heures, au petit jour que dans ton cœur un dragon plongea son couteau.
Est-ce ainsi que les hommes vivent? Et leurs baisers au loin les suivent? Des soleils révolus.
Il en est ainsi quand Léo Ferré tire d'un poème autobiographique sur le temps où j'étais médecin militaire au début de 1919, faisant l'occupation de la Sarre, une chanson qui s'appelle « Donne mes vers ». Est-ce ainsi que les hommes vivent, dont il a aussi fait un refrain qui n'existait pas dans le poème. De cette façon, une anecdote de ma vie a pris un sens général, touchant à la destinée de l'homme, et sa chanson est devenue une songerie pour tous, au lieu d'un souvenir.
Louis Aragon, je l'ai connu par le dédale des affaires du Parti communiste, comme ça, parce que je n'avais compris pourquoi il était communiste, d'ailleurs. Il était communiste parce que sa femme était russe, je sais pas quoi. Et un jour, j'avais été à Saint-Germain-des-Prés, au moment où avait paru ce qu'il a appelé le roman inachevé. Il y a des poésies. J'ai acheté ça, je suis rentré à la maison, j'ai mis en musique les dix poésies d'Aragon, dont j'ai fait le disque. Et à ce moment-là, je l'avais connu comme ça une ou deux fois, mais je ne le connaissais pas bien. Et Catherine Sauvage, qui le connaissait mieux, est allé le voir pour lui dire que s'il pouvait venir à la maison, m'écouter, etc. Il est venu avec Elsa, j'ai chanté les chansons, et il m'a dit oui tout de suite, il n'y a pas eu de problème. Aragon, c'était pour moi un type très simple. et très, très fraternel. Un jour, je suis allé le voir chez lui, quand j'étais à Bobino. Et de chez lui à Bobino, j'allais à pied, parce que c'est pas tellement loin. J'avais été le voir pour que, je sais pas, pour lui parler de quelque chose. Et je suis parti pour aller à Bobino, pour faire mon tour de champ, le soir. Et tout d'un coup, j'entends courir quelqu'un derrière moi, dans la rue. Alors bon, je dis, tiens, il y a un type qui court, là, sur le trottoir, quoi. Et j'ai continué à marcher. Et j'ai entendu toujours le bruit de la personne qui courait de plus en plus, et puis c'était de plus en plus présent. Et c'était Aragon qui me courait après. Il m'a dit, Léo, tiens, t'as oublié ton paquet de Celtic. Ah oui, c'est extraordinaire. Ça m'a touché beaucoup, ça.
Mon sombre amour d'orange amère, ma chanson d'écluse et devant mon quartier d'ombre, où vient rêvant mourir la mer. Mon beau mois d'août dont le ciel pleut des étoiles sur les monts calmes, ma songerie au mur de palme où l'air est bleu. Mes bras d'or, mes faibles merveilles, renaissent ma soif et ma faim. Collier, collier des soirs sans fin, où le cœur veille. On sait ce qui se passe, c'est peut-être bien ce tantôt que l'on jettera. Et les pivoines, vite apporter mon vin, mon sang pour lui plaire, comme en passant font les avoines. Il me reste si peu de temps pour aller au bout de moi-même et pour crier Dieu.
Ça, c'était, si je rencontre une femme comme ça dans la rue qui vient vers moi, je me dis, tiens, j'ai rencontré une femme qui avait une sale gueule. C'est terrible. Dès qu'elle te parlait, c'était fini. Elle devenait adorable. Elsa, c'était, pour lui, ça a été une chose extraordinaire, quoi. Extraordinaire. Et elle m'a beaucoup aimé aussi. Comme ça, quoi, parce qu'elle était contente de me connaître. Elle était aussi contente que que j'ai pu mettre en musique les poésies de son mari. Et je ne peux pas dire, lorsqu'elle est morte, je l'ai appris dans le train, où j'étais chez moi en Italie, là. J'étais pas ici, j'étais dans une maison qu'on avait louée quand elle est arrivée, qu'on avait gardée pendant 2 ans. Et j'ai appris qu'elle était morte et ça m'a fait beaucoup de peine. J'ai écrit à Louis 8 jours après parce que je ne l'avais pas su. Il m'a dit, c'est la seule lettre que j'ai gardée.
Ragon Elsa. Paresse, de l'air que te fait rattachant, tes cheveux, ce geste touchant, que je renaisse et reconnaisse. Un monde habité par le chant, Elsa, mon amour, ma jeunesse. Eau forte et douce comme un vin, pareil au soleil des fenêtres, tu me rends la caresse d'être, tu me rends la soif et la faim. Et de connaître notre histoire jusqu'à la fin. C'est miracle que d'être ensemble, que la lumière sur ta joue, qu'autour de toi le vent se joue. Toujours si je te vois, je tremble, comme à son premier rendez-vous, un jeune homme qui me ressemble. Pour la première fois ta bouche, pour la première fois ta voix, d'une aile à la cime des bois, l'arbre frémit jusqu'à la souche. C'est toujours la première fois quand ta robe en passant me touche. Ma vie en vérité commence le jour où je t'ai rencontré, toi dont les bras ont su barrer sa route atroce à ma démence, et qui m'a montré la contrée quand la bonté seule. En ce moment, tu vins au cœur du désarroi pour chasser les mauvaises fièvres, et j'ai flambé comme un jeune lièvre à la Noël entre tes doigts. Je suis né vraiment de ta lèvre, ma vie est à partir de toi. Suffit donc que tu paraisses, de l'air que te fait rattachant tes cheveux, ce geste touchant que je renaisse et reconnaisse. Un monde habité par le chant, Elsa, mon amour, ma jeunesse.
Sa réalité à l'immensité des choses humaines. Moi qui frémissais toujours, je ne sais de quelle colère, deux bras ont suffi pour faire à ma vie un grand collier d'air. Rien qu'un mouvement, ce geste en dormant, léger qui me frôle, un souffle posé, ouais, une rosée contre mon épaule, un front qui s'appuie à moi dans la nuit,
de grands yeux ouverts, et tout m'a semblé comme un champ de blé dans cet univers. Un tendre jardin dans l'herbe où soudain la verveine pousse, et mon cœur défunt prenait au parfum qui fait l'ombre douce. Il n'aurait fallu qu'un moment de plus pour que la mort vienne, mais une main nue alors est venue qui a pris la mienne.
Léo Ferré, la dernière fois que vous êtes venu à ce micro, vous étiez en train d'écrire des chansons sur des poèmes d'Aragon. Vous en aviez choisi une quinzaine, je crois.
Oui, une quinzaine. C'est terminé maintenant et je suis en train de les orchestrer pour pouvoir faire le disque que je vais enregistrer ces jours-ci.
Quel est le poème que vous avez choisi de nous présenter ce soir?
Eh bien, je crois que c'est le premier d'une des faces du disque et il s'appelle « Je chante pour passer le temps ».
Je chante pour passer le temps petit qu'il me reste de vivre, comme on dessine sur le givre, comme on se fait le cœur content. À lancer cailloux sur les temps, je chante pour passer le temps. J'ai vécu le jour des merveilles, vous et moi souvenez-vous-en, et j'ai franchi le mur des ans, des miracles plein les oreilles. Notre univers n'est plus pareil, j'ai vécu le jour des merveilles. Allons que ses doigts se dénouent comme le fronde avec la gloire. Nos yeux furent premiers à voir les nuages plus bas que nous. Et l'alouette à nos genoux, allons que ses doigts se dénouent. Nous avons fait des clairs de lune pour nos palais et nos statues. Qu'importe à présent qu'on nous tue, les nuits tomberont une à une. La Chine s'est mise en commune, nous avons fait des clairs de lune. Et j'en dirai, tant fut cette vie aventure où l'homme a pris grandeur nature, sa voix par-dessus les forêts, les monts, les mers et les secrets. Et j'en dirai. Oui, pour passer le temps, je chante. Au violon s'use l'archer, la pierre au jeu des ricochets, et que mon amour est touchante. Près de moi, dans l'ombre penchante, oui, pour passer le temps, je chante. La 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 la. Je chante pour passer le temps, oui, pour passer le temps, je chante.
Bien. J'ai pioché, je reviens à cette chansonographie, j'ai pioché dedans, j'y ai trouvé toutes sortes de musiques et d'interprétations d'esprits très différents. Mais il me semble, vous me direz votre opinion bien sûr, que c'est Léo Ferré qui paraît se rapprocher le plus de vous, ou si vous préférez, qui paraît réussir plus qu'un autre à vous illustrer musicalement.
Je ne sais pas pour les autres comment c'est, mais je dois dire que j'ai une très profonde reconnaissance à Léo. qui a commencé à faire ces choses, c'est-à-dire sans m'en parler, même les a montré quand c'était fait, mais qui est le premier, non pas le premier à m'avoir mis des choses de moi en musique. Poulenc, que vous l'avez dit, Auric, par exemple, Claude Arieux, ou aussi bien Georges Brassens avait fait cela mais avant lui. Personne ne l'avait fait avec cette ampleur. Le fait, peut-être, c'est qu'à la caractéristique de ce disque qui contient ces chansons, c'est qu'elles font un paysage.
Oui, c'est ça.
Et là, je me retrouve et me suis certainement retrouvé comme je ne pouvais jamais me retrouver dans une chanson isolée.
Oui, qui était plutôt une mélodie qu'une chanson et d'un style peut-être plus précieux.
Il ne s'agit pas de préciosité si nous parlons, par exemple, de Brassens, n'est-ce
pas ? Non, c'est pas dans le cas
mais,
de Brassens.
Mais enfin, ce qu'il y avait avec Léo, c'est qu'il a d'ailleurs entraîné indiscutablement les musiciens à me donner l'attention qu'ils m'ont donnée par la suite, puisqu'actuellement, je n'ose même plus dire le chiffre des musiciens qui ont mis des poèmes en musique de moi. J'ai l'air de me vanter, n'est-ce pas ? C'est pas la peine.
Georges Sadoul l'a dit pour vous. Mais
oui, je crois qu'il était resté en dessous de la réalité.
Pour cette mise en musique, il y a encore un point qui a été soulevé. Il paraîtrait que Léo Ferré remanie vos poèmes pour les mettre dans une forme plus chanson, si vous voulez.
Il ne remanie pas les poèmes, mais il prend un vers et en fait, par exemple, comme c'est dans une chanson que j'aime beaucoup. C'est ainsi que les hommes vivent. C'est ainsi que les hommes vivent est un vers qui vient une fois dans mon poème. Oui. Il en a fait mais un.
Il en a fait, une sorte
il lui arrive aussi oui. de mettre une strophe avant l'autre ou des choses comme ça, là, ou de ne pas prendre le poème entier. On ne peut pas dire pour autant qu'il a remanié le poème, mais il le rend maniable à la chanson.
Il le met en
forme
dans
ce genre.
Ce
qui est un peu différent. N'est-ce pas ? En tout cas, moi, je m'intéresse beaucoup, et je l'ai dit, je l'ai écrit, je m'intéresse beaucoup à ces choses. Elles sont loin de me scandaliser. Elles m'intéressent parce que c'est comme une critique et une critique positive. L'homme qui met son art au service de ce que j'ai écrit et qui montre ce qui pour lui est important dedans, ce qui le touche, eh bien, ça m'apprend quelque chose sur moi-même et je lui en suis infiniment reconnaissant.
Et qu'est-ce que vous faites, Léo Ferré, pendant cette pause du spectacle ?
Eh bien, j'ai pas mal de travail en ce moment et je suis très content car je viens de faire avec Aragon 15 chansons que nous avons extraites de son dernier recueil de poèmes qui s'appelle Le roman inachevé. Et je vais faire assez vite un disque de ces chansons avec Aragon.
J'imagine que ce sont certaines de ces chansons-là que vous êtes venu nous présenter ce soir.
Oui, c'est ça. Je suis venu vous présenter une chanson que j'ai faite avec Aragon, qui s'appelle « Tu n'en reviendras pas ».
Tu n'en reviendras pas, toi, qui courais les filles, jeune homme dont j'ai vu battre le cœur à nu, quand j'ai déchiré ta chemise, et toi non plus. Tu n'en reviendras pas, vieux joueur de manille. Que nos buts a coupé par le travers en deux, pour une fois qu'il avait un jeu du tonnerre. Et toi, le tatoué, l'ancien légionnaire, tu survivras longtemps sans visage, sans yeux. On part, Dieu sait pour où, ça tient du mauvais rêve. On glissera le long de la ligne de feu. Quelque part, ça commence à n'être plus du jeu. Les bons hommes là-bas attendent la relève. Roule au loin, roule le train des dernières lueurs. Les soldats assoupis que ta danse secoue laissent pencher leur front et fléchissent le cou. Cela sent le tabac, la laine et la sueur. Comment vous regardez sans voir vos destinées, fiancée de la terre et promis des douleurs, la veilleuse vous fait de la couleur des pleurs, vous bougez vaguement vos jambes condamnées. Déjà la pierre pense où votre nom s'inscrit, déjà vous n'êtes plus qu'un mot d'or sur nos places, déjà le souvenir de vos amours s'efface, déjà vous n'êtes plus que pour avoir péri.
Léo Ferré, lui, avait pris dans, plus particulièrement, tout d'abord dans le roman inachevé, et puis ensuite dans mon poème Elsa, des passages de mes poèmes, et en avait fait des chansons, c'est-à-dire qu'il ne les donne en général pas in extenso, en prend quelque chose qui en donne le mouvement général. Souvent, il y a fait des modifications, c'est-à-dire placer les strophes dans un ordre différent, ou même pris un vers du poème pour en faire un refrain, alors que c'est un vers qui n'est dans le poème donné qu'une fois.
Tout ça, vous acceptez, vous? Ça ne vous gêne pas?
Mais non, pourquoi est-ce que ça me gênerait? Je ne vois aucune raison. J'ai écrit mes poèmes comme poèmes sous une certaine forme. Mais quand on les chante, premièrement, ils ne peuvent jamais avoir la longueur que le poème peut avoir. Une chanson comporte un nombre limité de strophes. Enfin, au XIXe siècle, on chantait des chansons qui étaient relativement interminables, mais l'habitude est venue, même sans arriver aux dernières chansons, que ceux de la toute dernière génération qui se bornent même, disons, à quelques mots. Mais enfin, en général, une chanson, quand elle a 3, 4, 5 strophes, c'est tout le bout du monde, et au-delà de cela, c'est fatigant. Par conséquent, cela a des règles auxquelles il faut bien se plier. Je trouve très naturel qu'un homme qui fait des chansons, un homme du talent et de la sensibilité de Léo Ferré, prenne quelque chose de moi. J'en suis même absolument honoré, et je suis même très intéressé à ce qu'il fait en coupant ainsi, en distribuant les choses. C'est comme s'il pratiquait une critique de la poésie, de ma poésie. Il met en valeur ce qu'il a touché, ce qui correspond à sa sensibilité propre, et même, pense-t-il, à la sensibilité du public. Cela m'apprend énormément sur mes poèmes, et bien que je sois absolument innocente, c'est de ces choses, puisque Ferré m'a toujours demandé, si ça ne me gênait pas, montrer avec beaucoup de gentillesse les choses, mais il les avait faites avant. Ça n'est pas sur mes conseils qu'il a coupé ceci ou cela, mais de son fait. Eh bien, quand j'ai vu cela, écouté ses chansons, ça a eu sur moi une certaine influence, et il est certain que dans des poèmes plus récents de moi, peut-être pourrait-on trouver une influence en retour de la chanson telle que Léo Ferré la comprend.
Léo Ferré, il y a combien de temps que vous êtes à la Villa d'Est?
Mais je suis à la Villa d'Est depuis le début du mois et j'y suis jusqu'à la fin du mois.
Et comment le public réagit-il à vos chansons, à la chanson de qualité, à la chanson poétique?
Mais le public réagit très bien. Je crois que le public en général, vous savez, ça n'est pas simplement à la Villa d'Est, mais le public réagit très bien aux chansons dites de qualité, enfin aux chansons qui veulent dire quelque chose, et c'est très sympathique.
Dites-moi, Léo Ferré, vous aviez entrepris il y a quelque temps de mettre toute une série de poèmes d'Aragon en musique.
Oui, j'ai mis 12 Aragons en musique, des poésies extraites de son livre qui s'appelle Le roman inachevé.
Et ce soir, vous êtes venu nous présenter encore, je crois, un poème d'Aragon que nous n'avons pas entendu encore, que nous ne connaissons pas.
Oui, c'est une chanson qui s'appelle L'étrangère.
Il existe près des écluses un bas quartier de bohémiens dont la belle jeunesse s'use à démêler le tien du mien. en bande, en cirant, en voiture. Ordinairement au mois d'août, ils disent la bonne aventure pour des piments et du vin doux. On passe la nuit claire à boire. On danse en frappant dans ses mains. On a guère le temps de le croire, il fait grand jour et c'est demain. On revient d'une seule traite, gai sans un sou, vaguement gris, avec des fleurs plein les charrettes, son destin dans la paume écrit. J'ai pris la main d'une éphémère qui m'a suivi dans ma maison. Elle avait les yeux d'outre-mer, elle en montrait la déraison. Elle avait la marche légère et de longues jambes de faon. J'aimais déjà les étrangères quand j'étais un petit enfant. Celle-ci parla vite, vite, de l'odeur des magnolias. Sa robe tomba tout de suite quand ma hâte la délia. En ce temps-là, j'étais crédule. Un mot m'était promission et je prenais les campanules pour les fleurs de la passion. À chaque fois, tout recommence. Toute musique me séduit et la plus banale romance mêle l'éternelle poésie. Nous avions joué de notre âme un long jour, une courte nuit, puis au matin, bonsoir, madame. L'amour s'achève avec la pluie.
Léo Ferré et la mise en chanson.
Il arrive à Léo Ferré de dire que nous avons fait ensemble une chanson. Cela n'est pas tout à fait exact. J'ai innocemment écrit un poème. Et lui, il en a fait une chanson, ce dont je serais bien incapable. À chaque fois que j'étais mise en musique par quelqu'un, je m'en suis émerveillée. Cela m'a appris beaucoup sur moi-même, sur ma poésie. J'ai l'habitude de dire que la mise en chanson d'un poème est à mes yeux une forme supérieure de la critique poétique. Une critique avec laquelle je puis être ou non d'accord, mais qui n'a rien à voir avec ce faible commentaire de ce qu'on dit ou de comment on le dit qu'est la critique écrite. C'est ici une critique créatrice. Elle recrée le poème. Elle y choisit. Elle donne à un vers une importance, une valeur qu'il n'avait pas. Le répète, en fait un refrain. Et aussi, elle néglige tel développement qui, à tort ou à raison, me paraissait indispensable. Elle saute des strophes, va avec audace de ce point du poème à sa conclusion. Ne me dites pas qu'elle le déforme. Elle lui donne une autre vitesse, un poids différent. Et voilà que cela chante, même si ce n'est pas tout ce que j'ai dit ou voulu dire. C'en est une ombre dansante, un reflet fantastique. Et j'aime ce théâtre qui est fait de moi.
Louis Aragon.
Léo, au moment où Aragon écrivait Léo Ferré et la mise en chanson, toi tu écrivais Aragon et la composition musicale.
Oui, j'ai rencontré Aragon dans son livre... Dans sa poésie, au cœur même des mots, je l'ai lu avec mes mains enchaînées au clavier et à ma voix. Entendons-nous bien, cela n'est pas une formule ni une image, mais l'expression d'une technique. Le vers d'Aragon est, en dehors de toute évocation, branché sur la musique. On a pris l'habitude d'écrire, dans les manuels de littérature, que le vers se suffit à lui-même et que les syllabes chantent, que la rime où l'assonance accuse les contours de la mélodie verbale. En dehors des recherches purement phonétiques, le poète écrit des mots. Leur musique, s'il en est, ne va pas sans un certain rythme interne. Ce n'est si que l'alexandrin est magnificent, que l'octosyllabe l'est moins, et que le vers de quatre pieds paraît céder davantage au désir de parler qu'à celui de chanter. Je ne crois pas tellement à la musique du vers, mais à une certaine forme propice à la rencontre du verbe et de la mélodie. Ce qu'Aragon déploie dans la phrase poétique n'a besoin d'aucun support, bien sûr, mais la matière même de son langage est faite pour la mise sur le métier des sons. Je ne crois pas à la collaboration, mais à une double vue, celle du poète qui a écrit, celle du musicien qui voit ensuite et qui perçoit des images musicales derrière la porte des paroles. Derrière la porte des paroles d'Aragon, il y avait une musique que j'ai trouvée, immédiatement. Et quand cela n'était pas immédiat, je tournais la page et passais à d'autres portes. J'ai mis Aragon en musique de la même façon que j'ai mis en musique Rudebeuf. Rudebeuf a vécu il y a 700 ans. Aragon vit en 1961. C'est à se dire que le vers français a un potentiel de musicabilité qui s'inscrit dans un certain espace-temps et non plus dans l'énoncé des générations littéraires. D'ailleurs, il comprenait très bien ça. Aragon avait compris quand il était venu écouter les chansons à la maison que j'avais faites. Justement, moi, je l'avais vu une ou deux fois. J'avais mis les chansons comme ça en musique. J'ai voulu lui demander l'autorisation. Et comme Catherine Sauvage le connaissait mieux que je ne le connaissais, elle lui avait dit, elle avait téléphoné, quoi. Alors moi, je lui avais téléphoné. Il était venu avec Elsa à la maison. Il avait écouté les chansons. Et ça lui paraissait de devenir des chansons. C'était autre chose pour lui. Et le vers restait proprement à lui. La musique, c'était moi. Donc, l'alliance, ça fait que ça fabrique cette entente nouvelle des paroles, de la musique qui va dans l'oreille des gens, qui fait que les poètes ne sont plus des gens qu'on lit de loin avec la lunette et qui sont même dans la rue quand il le faut.
Je connaissais Aragon comme ça, très très peu. J'avais vu une ou deux fois comme ça. Et un soir, je vais à Saint-Germain-des-Prés dans une librairie, je trouve un livre qui s'appelait Le roman inachevé, et il y avait la fiche rouge, Le roman inachevé. Et alors, je suis rentré à la maison, j'ai mis en musique, on la chantait avec des chœurs. Et Aragon m'a dit, tu sais Léo, je n'ai absolument rien changé dans l'esprit de Manouchian, qui était le garçon qui avait raconté ce qu'il raconte dans la fiche rouge. Il a dit tout ça, j'ai simplement mis ça en vers. Et ça m'avait frappé beaucoup. Voilà.
Eh bien oui, les maîtres de la propagande nazie ont aussi essuyé des revers. C'est l'histoire de cette célèbre affiche, connue sous le nom d'affiche rouge. Réalisée par les services de propagande allemands, l'affiche rouge constitue une opération d'envergure contre la résistance. Elle annonce l'exécution des membres du réseau Manoukian. Constituée dès l'année 42, cette organisation composée de communistes et d'étrangers fait partie du groupe de résistance des francs-tireurs et partisans, main-d'œuvre immigrée. Arrêtés en novembre 1943, ses membres sont condamnés à mort et fusillés le 21 février 1944 au fort du Mont-Valérien. En février 1944, l'affiche rouge est placardée massivement dans la France occupée. Elle est accompagnée de reportages filmés, d'articles de presse et de nombreux tracts comme celui-ci. Si des Français pillent, volent, sabotent et tuent, ce sont toujours des étrangers qui les commandent. Ce sont toujours des chômeurs et des criminels professionnels qui exécutent. Ce sont toujours des Juifs qui les inspirent. C'est l'armée du crime contre la France. Sur l'affiche elle-même, les membres du réseau Manoukian sont présentés comme de dangereux terroristes. La couleur rouge évoque leur appartenance politique, c'est-à-dire le Parti communiste, engagé dans la résistance armée. Le rouge suggère aussi le sang qu'ils ont versé. D'ailleurs, Aragon la décrira dans son poème, strophe pour se souvenir, comme l'affiche qui semblait une tache de sang. L'image est structurée en trois parties. En haut, on peut lire une question. Des libérateurs ? En bas, on trouve sa réponse. La libération par l'armée du crime. Le message est clair. Ces hommes sont des criminels. Dans un triangle rouge figurent les photos de 10 résistants du groupe Manoukian. Sous chacune d'elles est inscrit le nom, l'origine et les actions menées. La pointe du triangle s'enfonce dans des photos montrant des attentats, des saisies d'armes, des destructions. Toutes les menaces que ces criminels font peser sur la France. Mais en février 1944, les Allemands ont subi des revers militaires importants. La déroute de Stalingrad, en février 1943, est un tournant de la guerre. En juillet 1943, les Alliés ont débarqué en Sicile et ils sont pratiquement maîtres de l'Afrique du Nord et de l'Italie. La défaite allemande paraît désormais possible, voire inévitable. Voici pourquoi l'affiche rouge n'a pas eu l'effet escompté auprès de la population. Au contraire, censée susciter la haine contre ses résistants, cette affiche éleva ses hommes au rang de martyrs et de héros.
Aragon, l'affiche rouge. Vous n'avez réclamé la gloire, ni les larmes, ni l'orgue, ni la prière aux agonisants. 11 ans déjà que cela passe vite, 11 ans, vous étiez servi simplement de vos armes. La mort n'éblouit pas les yeux des partisans. Vous aviez vos portraits sur les murs de nos villes, noirs de barbe et de nuit, hirsutes, menaçants. L'affiche qui semblait une tache de sang, parce qu'à prononcer vos noms sont difficiles. Ils cherchaient un effet de peur sur les passants. Tout avait la couleur uniforme du givre. À la fin février, pour vos derniers moments. Et c'est alors que l'un de vous dit calmement: bonheur à tous, bonheur à ceux qui vont survivre. Je meurs sans haine en moi pour le peuple allemand. Adieu la peine et le plaisir, adieu les roses, adieu la vie, adieu la lumière et le vent. Marie-toi, sois heureuse et pense à moi souvent, toi qui vas demeurer dans la beauté des choses, quand tout sera fini plus tard, en arrivant. Un grand soleil d'hiver éclaire la colline, que la nature est belle et que le cœur me fend. La justice viendra sur nos pas triomphants, ma Mélinée, ô mon amour, mon orpheline. Et je te dis de vivre et d'avoir un enfant. Ils étaient 23 quand les fusils fleurirent. 23 qui donnaient leur cœur avant le temps. C'était 23 quand les fusils fleurirent. 23 qui donnaient leur cœur avant le temps. 23 étrangers et nos frères. Pourtant, 23 amoureux de vivre à en mourir. 23 qui criaient à la France en s'abattant.
C'est ce qui manque dans ce monde. C'est ce qui manque. L'intelligence. La connerie, c'est trop vivant, trop présent.